Bon matin tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Écoutez, désolé du léger retard, ça va être un épisode pas mal plus short aujourd'hui. Jacinthe a eu quelques petits problèmes techniques pour ce qui est du lien et tout ça. Mais on voulait quand même parler de la Société des Transports du Québec, enfin des sociétés de transport, les fameuses STM, Montréal, Rimouski, Québec, Trois-Rivières, name it. Ça va pas bien? Semble-t-il que le monde trippe pas se faire rentrer des autobus dans la gorge alors que le monde n'en veut pas? Puis là, les maires chialent qu'il n'y a plus assez de cash. Semble-t-il, faudrait les sauver. Fait qu'on en parle ce matin, courtement, mais quand même, en toute liberté. Yeah, Jacinthe.
Salut, Joey.
Ouais. Je vais partager l'article tout de suite, ça va régler le cas. C'est lequel tu vas en premier? On va prendre celui avec le gouffre financier, je pense que ça va résumer pas mal le tout. Article de Radcan, gouffre financier du transport collectif, les maires ont trois scénarios. Il n'y en a aucun des trois, je vous confirme, que c'est de couper dans le gras. C'est taxé, taxé, taxé. C'est assez spécial.
Pas ouais. Ça, par contre. Augmenter les taxes municipales de ces municipalités-là concernées, augmenter les taxes sur l'immatriculation, réduire les services. Ils ont parlé de réduire les services. Ils ont parlé d'augmenter les tarifs pour les usagers. Il y a cinq scénarios de proposer, mais les plus envisageables, selon eux, c'est d'augmenter les taxes sur l'immatriculation ou les taxes municipales. Donc, alors que Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports, avait commandé des audits dans différentes sociétés de transport, puis on attend toujours les résultats de ces audits-là parce qu'ils sont probablement en cours. On n'a même pas encore le résultat des audits que les maires ont déjà sonner la sonnette d'alarme pour dire on va arriver en déficit. Puis c'est pas des petits déficits, c'est pas quelques millions. Là, on est rendu dans les centaines de millions de déficits.
Oui, rien qu'à Montréal, c'est quasiment 500. En fait, c'est la RTM, là, c'est ouais. du Grand Montréal, c'est plus de 500 quelques millions. C'est quelque chose.
Oui.
Puis c'est qu'on se dit qu'à Montréal, c'est bien la place que le transport collectif devrait fonctionner, mais il se trouve un moyen de perdre de l'argent pareil. Vive le Québec. Ah, c'est quelque chose.
Oui, fait que là, on se demande, ils se sont demandé quoi faire, ils ont des scénarios, mais dans ces scénarios-là, il n'y a pas de scénario qui prévoit, par exemple, une fusion des sociétés de transport, parce qu'à Montréal, il y a la Société de transport de Laval, il y a la Société de transport de Longueuil, il y a la Société de transport de l'île de Montréal, et c'est gouverné tout ça par chacun, ils ont chacun leur propre système de gouvernance, les trois sociétés de transport de Laval, Montréal et Longueuil, par exemple, mais en plus de ça, c'est chapeauté par une autre structure de gouvernance que tu parlais, la RTM, l'Autorité régionale métropolitaine de transport. Donc ça aussi, c'est une autre structure de gouvernance. Il y a EXO, qui est aussi une autre société de transport qui s'occupe des trains de banlieue et des sociétés de transport des villes de la grande agglomération. Donc là, on parle de la Couronne Nord, la Couronne Sud, donc les villes comme Terrebonne, Repentigny ont aussi des services de transport avec une autre structure de gouvernance. Bref, ça fait beaucoup de structures de gouvernance, ça fait beaucoup de gestionnaires, beaucoup d'administration pour des sociétés qui sont individuelles, mais qui sont toutes en grande difficulté et en grand danger financier. Tu sais.
Mais est-ce que la solution est vraiment la centralisation? Parce que personnellement, regarde, on l'a vu avec les villes, puis en toute franchise, c'est pas le nombre de fonctionnaires qui a baissé, au contraire, ça a explosé. Fait que je comprends le point que c'est vraiment, ils sont tous... On a tous des cas de mini-obèses, mais dans ma tête, c'est pas en les combinant pour faire un méga-obèse. Parce que, tu sais, ils ont tellement la mentalité de garder tout le monde que, c'est justement, on l'a vu avec la STM l'année passée, le ministère des Transports, Geneviève Guilbeault, leur a demandé de couper. Au lieu de couper vraiment dans la bureaucratie, dans les bureaux, ils ont fait exprès de couper dans les services. Ils ont coupé dans les ingénieurs pour ce qui était des ingénieurs pour les wagons de métro. En tout cas, différents employés qui étaient en contact direct avec les usagers, au lieu de couper vraiment d'un bureau. C'est carrément stupide, là. C'est aller à l'inverse. Ça montre à quel point ils sont bornés. Puis ils ont fait ça délibérément pour justement après ça se plaindre. Puis, vous voyez, quand on coupe, il manque de services. Pleurez, pleurez, donnez-nous du cash. Mangez donc de la... En tout cas, c'est un peu ça. Là.
Non, mais tu poses une bonne question. Est-ce que la fusion puis le regroupement de toutes ces sociétés-là permettrait réellement de faire des économies d'échelle? La réponse est oui. Quand on regroupe, on fait des économies d'échelle. Ouais, on le voit dans le secteur.
Ça dépend de la manière que c'est fait, c'est juste
mais
ça.
Mais c'est ça. Est-ce que ces économies d'échelle-là permettrait de donner un levier financier pour réduire le déficit ou on servirait de ce levier-là pour créer des structures supplémentaires, des postes supplémentaires ou avoir des salaires encore plus importants parce que là, si tu es rendu PDG d'une grosse structure, méga structure comme ça, ben ton salaire doit naturellement être plus important. Puis là, tu es directeur puis tu es vice-président aussi. Donc, est-ce que ces économies d'échelle-là viendraient absorber un peu plus le déficit ou viendraient compenser pour une portion du déficit ou on s'en servirait tout simplement juste pour grossir l'ogre, grossir la machine? La question est super pertinente et là, en ce sens-là, je me dis, bon, mais c'est quoi l'autre solution? Quelles sont les autres solutions? Parce qu'il doit y avoir un bouquet de solutions. Est-ce qu'on privatise les sociétés
ben,
de transport?
Tu m'ouvres la porte, c'est exactement là que j'allais aller. Est-ce qu'on l'éléphant dans la pièce? Je pense que c'est ça. Depuis les années environ 50, au Québec, on a décidé de rendre ça public, les sociétés de transport. Peut-être qu'il est temps de retourner en arrière puis de refaire un autre changement.
La question mériterait qu'on s'y attarde.
Ben oui.
Qu'on regarde ça sérieusement. Je ne sais pas si la réponse est là. Je ne sais pas si c'est un modèle viable non plus. Mais une chose est sûre, c'est que embarque l'entreprise privée là-dedans. La première chose qu'ils vont faire, j'en suis convaincue, c'est que la technologie nous le permet maintenant. Là, elle va s'assurer, ça c'est sûr, elle va s'assurer que chaque usager qui entre dans un autobus, dans un métro, dans un train, dès qu'il entre et dès qu'il sort, il va être informatisé dans un système où l'intelligence artificielle va être mise à contribution là-dedans. Puis on va savoir exactement le nombre d'usagers qui rentrent à chacun des points d'entrée des parcours puis qui sortent à chacun des points. Et avec l'intelligence artificielle puis l'informatique quantique, on serait capable facilement de cartographier ça et de mesurer vraiment de façon super précise les routes les plus payantes, les plus rentables, les routes les plus déficitaires, les routes qu'on peut éliminer, les routes où il y a tellement de demandes que ça vaudrait la peine même d'augmenter la fréquence, par exemple, ou de mettre encore plus de services pour rentabiliser davantage. On serait vraiment en mesure de mesurer. Puis ça se fait pas, c'est dommage, mais on a la technologie qui nous permettrait de savoir exactement, là, d'avoir une information très détaillée sur le nombre d'usagers puis la demande.
Et on nous forcerait pas de la technologie des années 60 en nous disant que c'est la révolution du 21e siècle.
Ouais.
Puis l'autre côté de la lame à double tranchant de cette épée-là, c'est qu'il est fort possible, je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui vont pleurer de tout ça, mais c'est fort possible que si le privé embarque, ben, des autobus à Rimouski, il est fort possible qu'il y en ait peut-être beaucoup moins, là, parce que justement... Une des raisons aussi que pourquoi autant de sociétés de transport font autant de déficit, là on parle de Montréal, mais là on parle des endroits qui ont beaucoup moins de population, c'est que vous voulez forcer du transport en commun, un peu comme à la QS en région, alors qu'il n'y a pas le bassin de population pour le soutenir financièrement. On se dit, c'est le public qui pourra toujours nous donner du cash pour renflouer les coffres, même si on fait des déficits, parce qu'il faut sauver la planète. Ouais, mais tu sais, excuse-moi, mais vous ne mettrez pas, tu sais, je viens de Montmagny, on est juste 12 000, là. On ne verrait pas notre bus là. À Rivière-du-Loup, peut-être va en avoir un, deux. That's it, là, tu sais, mais vous pourrez pas amener des flottes de à moins, c'est ça, vous pourrez pas amener des flottes d'autobus ou de transports en commun en région s'il n'y a pas le bassin de population pour le soutenir, parce que sinon, rendu là, c'est juste du signalement de vertu, là.
Ben, là, tu poses aussi une autre question, là, tu sais, comment on traite cette problématique-là en région versus en ville. Moi, je préfère, pour l'instant, m'attaquer à la problématique en ville parce que c'est eux qui crient le plus fort, c'est eux qui ont les plus gros déficits, puis c'est eux qui ne devraient pas avoir de déficit parce qu'ils ont la masse critique pour s'assurer de rentabiliser leurs opérations. Alors, moi, je me dis, là, en milieu rural, c'est une autre histoire, mais en milieu urbain, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas à rentabiliser les services ou du moins à avoir un meilleur contrôle sur les dépenses parce que là, c'est rendu vraiment hors de proportion. Ça pose quand même la question que tu viens de dire. Est-ce qu'on a la masse critique en période post-COVID? Parce que pourquoi là, les sociétés de transport créent au déficit majeur comme ça? C'est qu'on n'est pas revenu au niveau de fréquentation dans le transport en commun dans la région de Montréal. On n'est pas revenu au niveau de 2019. On a réussi à revenir à des niveaux inférieurs à la période, supérieurs à la période de la COVID, là. Mais on n'est pas revenu au niveau 2019 parce que le télétravail a pris finalement sa place dans notre mode de vie. Donc, là, on a un manque à gagner encore important par rapport à la période avant COVID, et c'est ça, là. Donc, est-ce qu'on fait certains constats de dire, bien, tant mieux, il y a des gens qui sont en télétravail, ça pollue encore moins quand tu restes à la maison pour travailler. C'est la meilleure façon de ne pas polluer. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on réévalue les services? Mais ça, il n'y a personne qui a le courage de faire ça. On veut maintenir le même niveau de service et le même niveau de grosse structure pour tenir tout ça en place.
Mais c'est là que le dogmatisme entre en jeu, j'ai l'impression, parce que justement, c'est pas de pas vouloir du transport en commun ou... c'est ça, c'est simplement que, comme tu l'as dit, les sociétés de transport en ont vraiment profité. Il y a eu vraiment du suremploi, du surengagement, j'invente un mot, là. Mais il y a eu beaucoup d'embauches à ce niveau-là. Puis c'est vraiment beaucoup là qu'on voit que, tu sais, il était vraiment visionnaire, là. Ah, là, ça prend une nouvelle ligne, là, puis une nouvelle ligne, là. Puis, ouais, mais il y a juste 15 personnes, là. Ah, c'est pas grave, ça prend une nouvelle ligne, puis un nouveau, puis pour desservir cette. Tu sais, en gros, c'est tout basé majoritairement sur le truc, un peu comme le tramway, même c'est le même discours, c'est le truc de build it and they will come, là. Tu sais, c'est vraiment, on met des lignes, on focus pas sur les endroits où c'est que le monde y va ou le prenne, c'est on bulle partout, toutes les lignes, partout à travers les villes ou whatever. Après ça, on dit, ah là, après ça, le monde va embarquer. Ben, semble-t-il que non. Puis après ça, pis c'est le double discours qu'on entend, là, tu sais, là, depuis le devoir en fin de semaine, là, c'est la guerre à l'auto ouverte, quasiment déclarée, puis on dit que le monde sont éco-anxieux, ils sont plus pour l'environnement, ils ont peur de ce que la planète va devenir, mais de l'autre bord, justement, quand c'est le temps de prendre le transport en commun, ils le prennent pas. Puis, ouais. Semble-t-il qu'ils achètent encore des chars parce qu'il y a un aspect de la liberté derrière. Puis, comme disait Frank, ne vous méprenez pas, cette guerre à l'auto-là cache littéralement un mépris de la liberté de déplacement qu'elle représente, également de la liberté de l'individu. Puis le but, c'est justement de coerciser les gens vers c'est les fameuses affaires de ville en 15 minutes. Je suis désolé, mais c'est pas une conspiration. Là. On le voit clairement là, avec Montréal, avec Laval, qu'il y a beaucoup... L'urbanisme est relié là-dedans aussi. Fait que tout ça, il semble être comme mélangé pour purement forcer les gens à forcer sur un milieu de vie particulier.
Oui, puis quand j'entends des gens dire « l'auto solo n'est pas la solution », je me suis fait dire ça très récemment sur une plateforme, « l'auto solo n'est pas la solution », ben attends, là, va vivre la vie de plusieurs individus là, dans ta ville ou dans ta communauté, puis reviens me voir après ça. Là. Peut-être que l'auto solo n'est pas la solution pour ta vie à toi. Est-ce que ça veut dire que c'est pas la solution pour la vie de ton voisin? À ta minute. C'est
t'es,
qui, t'es qui, toi, pour juger de la vie de ton voisin puis dire que l'auto solo n'est pas sa solution? Est-ce que tu connais toute sa routine de vie, ses enjeux, ses obligations, ses contraintes, ses limites? Voyons donc, l'auto solo n'est pas la solution. C'est un jugement facile sur ce qu'on projette sur la vie des autres dont on connaît pas les obligations, puis... horaire de travail, leur obligation familiale, tout leur mode de vie. Puis de toute façon, si tu penses que l'auto solo n'est pas la solution pour toi, parfait. Tu n'as pas à imposer ta vision sur les autres. Moi, si je dis que la malbouffe n'est pas la solution, je vais t'imposer de fermer tous les McDo de ce monde parce que je trouve que la malbouffe n'est pas la solution. Tu sais, si tu veux y aller au McDo, tu as le droit d'y aller au McDo.
Non, c'est
ça.
Comprends
que là, il y a des implications sur l'environnement et la planète, mais il y a aussi des implications sur l'environnement et la planète dans les fast-foods aussi, puis on ne va pas se mettre à les fermer, là, tu sais.
Ah, puis une réalité du terrain, c'est facile, là, comme disait, comme argument quand tu es en direct de Verdun, mais je suis désolé, mais regarde une carte, regarde, on est au Québec, là. Tu sais, on nous a poussé à coloniser l'Abitibi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis la Côte-Nord dans des régions éloignées, la Gaspésie, whatever. C'est des petits pays, on parle, ah, mais l'Europe le fait, ouais, mais check le Danemark, tellement sont toutes, ils ont tellement pas de territoire, ils sont tous compensés dans des, tout le monde est ultra très proche un et l'autre. Là, le transport collectif peut fonctionner via les trains rapides, via justement les autobus, parce que justement, il y a tellement pas de superficie de territoire que tout le monde est jump-packed dans le même coin. OK, la densité de population est plus grande, mais check le Québec, on est éparpillé partout, très, très mince. On vit, tu sais, hashtag, on vit dans le bois, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Fait que, tu sais, vous pouvez pas demander du jour au lendemain que le monde arrête d'utiliser leur char, à moins que vous fassiez un ordre, on rapatrie tout le monde qui habite en Abitibi, toutes les régions éloignées, on vous force quasiment d'expropriation pour vous retourner vivre au centre du Québec. Ce serait la seule manière, la pseudo-logique de le faire. Mais encore là, on est encore très, très recentré. Fait que C'est ça, c'est un discours copié-collé qui ne prend aucunement en compte la réalité du terrain, puis qui ne peut pas, je dis pas de renier ça du revers de la main, mais justement de l'ajuster dans la nation, dans le pays ou dans la province où c'est que tu vis. C'est la même chose avec la crise environnementale. Toutes les fois que le jour de la Terre récemment, les manifestations pour l'environnement, puis ça va de bon sens, on pollue trop. Ouais. Ouais, mais c'est quoi? Parce que tu dis ça parce qu'on est en Amérique du Nord? Ouais, mais on n'est pas aux États-Unis ici. Là. On est au Québec, là. D'électricité, pas de station nucléaire, on composte, c'est quoi se passer, là? Oh non, faut tomber la planète, puis ça. Mais c'est ça. Vous n'avez plus de crédibilité parce que justement, votre discours est un copier-coller. Vous ne l'ajustez pas à chaque nation aussi que vous représentez là-dessus. Vous avez l'air d'une gang de gnochons qui fait juste scander des slogans pour scander des slogans.
Ben, c'est aussi que ça manque de réalisme parce qu'il faut l'admettre qu'on n'a pas la masse critique. On est un pays peu peuplé, tu l'as dit, tu l'as répété. Mais ça, il faut être réaliste. Là. On n'a pas la masse critique. On est un pays très peu densifié. Et très peu peuplé, on est moins pour payer les services dont on rêve d'avoir, puis qu'il y a en Asie, puis qu'il y a en Europe, puis qu'il y a partout dans le monde, puis qu'on voudrait donc bien avoir. Nous, on a d'autres choses. On a de l'espace, puis on a la possibilité d'avoir des villes où est-ce qu'on peut encore construire, puis il reste encore des terrains, puis on peut se doter d'infrastructures neuves, ce que dans d'autres pays, dans d'autres États, ils peuvent même plus faire parce que c'est hyper dense, c'est hyper peuplé, puis c'est déjà construit depuis des centaines d'années. Mais on n'a pas cette réalité-là. Alors, à un moment donné aussi, ça prend une dose de réalisme pour admettre qu'on est nouvellement arrivé sur ce continent, parce que c'est le cas. Tu sais, on est nouvellement arrivé sur ce continent dans l'histoire du monde, puis on n'a pas peuplé de façon aussi dense encore notre continent. Fait qu'on va avoir moins de services, on va avoir moins de capacité de payer aussi. Puis cette capacité de payer-là, il faut arrêter de s'imaginer qu'on doit s'offrir les infrastructures, les services, puis le niveau d'infrastructure en transport en commun qu'il y a ailleurs, alors qu'ils sont 10 fois plus 30 fois plus que nous pour payer ces infrastructures-là, puis pour les utiliser aussi. C'est un non-sens, là.
En terminant, Jacin, parce que si on a un peu moins de temps aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que le gouvernement devrait faire? Parce que là, ce qui est chiant, c'est que... Moi, c'est sûr que la réponse serait facile, mais le problème, c'est que le Christie... T'sais, parce que c'est ça, la question environnementale, la question des changements climatiques, comme disait Jordan Peterson, c'est le « out of jail free card ». C'est vraiment, tout passe là-dessus, puis il y a un drapé de virtuosité derrière chaque politique, puis il n'y a aucun politicien, on dirait, qui a pris le courage de vouloir, parce que la solution classique, c'est vraiment, on est en mode cure-minceur, là, parce que là, on voit clairement qu'il y a un problème, il faut dégraisser, c'est pas qu'on est contre l'environnement, mais calvaire, vous êtes des trous noirs à cash. Il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Vous dites que le monde embarque dans vos projets, puis on est green, puis le monde sont sensibilisés. Mais pourquoi il n'embarque pas dans vos histoires? Fait que je pense que la solution, en tout cas, je vais te laisser répondre là-dessus, c'est qu'il faut faire des cures minceurs. Il faut vraiment penser peut-être à réduire un peu les services pour certaines lignes moins utilisées, pour recentrer ça, pour que ça aille mieux par l'avenir. Mais pour beaucoup de gens, c'est un anathème. Ces projets-là, c'est comme des projets sacro-saints. On touche pas à ça. C'est quasiment, voyons, non, c'est comme remettre en question la volonté divine. Oublie ça. Là, c'est comme out of touch là, dans le discours d'aujourd'hui. Là.
Non, je suis d'accord. Mais premièrement, j'imagine que Geneviève Guilbeault s'en vient avec une agence de transport qui va regarder ça. J'espère que cette agence-là va regarder cette problématique-là avec intelligence. J'espère qu'on va se servir de la technologie pour vraiment beaucoup mieux recenser les besoins, la demande, l'utilisation. Moi, je vois des gros autobus passer à Québec. Là, je suis à Québec, je ne suis pas à Montréal, mais des gros autobus vides ou à 4-5 passagers la grande majorité de la journée sur certains trajets. C'est des gros... Fait que ça pollue plus, là. Je m'excuse, là. Ah ouais. Mais ces gros autobus-là, quand ils sont juste à 4 passagers ou quand ils sont vides ou quand il y a 2 personnes, puis c'est très fréquent, là. Je vous le dis, j'en vois beaucoup. Je veux dire, là, c'est même plus environnemental. C'est polluant, cette histoire-là. Donc, il faut adresser les vraies questions. Puis, cure minceur, je suis d'accord avec toi. Cure minceur, mais adresser les vraies questions. Est-ce que sur certains trajets, il faut les couper? Il faut mettre des plus petits autobus? Il faut avoir un système de transport sur demande avec une application intelligente, avec quelques petits véhicules qui se promènent en ville? Je ne le sais pas, mais il faut se réinventer, là, puis il faut arrêter de juste s'enfoncer dans ces sables mouvants-là, finalement.
Oh ouais, puis si on défend le dogme juste pour défendre le dogme, puis on n'est plus là du tout. C'est blat parce que c'est la même chose dans tout. J'ai fait un bulletin de nouvelles hier sur l'entrevue que Christian Dubé donnait à Patrice Roy, puis c'est le déni total. Là. Ouais. La maison est en feu, puis c'est carrément le mime avec le petit chien. Là. This is fine. Puis il boit son café, puis tout le monde... Étape 1, comment tu veux reconnaître qu'il y a un problème? On n'est pas capable de passer l'étape 1. Fait que tu sais, où c'est qu'on s'en va, en tout cas. Ouais. Écoute, Jacinthe, merci beaucoup. Un peu plus short aujourd'hui.
Bonne journée.
On va avoir plus de temps la semaine prochaine. Mais sinon, prends soin de toi. Puis également, les gens, je vous conseille fortement, vous allez peut-être le trouver sur Twitter, allez voir le segment que Jacinthe a fait avec Gérald Filion sur le jour de la Terre avec Laure Varidel il y a quelques jours. Pas Laure Varidel, excusez-moi.
Aurélie Langteau.
C'est vraiment tout pareil dans ma tête, là. Mais c'est ça, Aurélie Langteau sur l'environnement. Écoute, c'était très bon là-dessus, chapeau. Ça prend un peu plus le réalisme derrière cette cause-là, puis un petit peu moins de fanatisme, peut-être. Fait que, merci beaucoup, Jacinthe. On se revoit la semaine prochaine.
Bye. Yes.